semaine 44. Salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, sommaire de la semaine.
Pas mal d'articles, hein. Je pense que les journalistes sont très actifs en ce moment, derrière leur petit clavier, chez eux sûrement.
Le Souar.be, l'enseignement supérieur pas assez open source, un article de Thomas Casavecchia.
Donc bah, c'est un sujet qu'on aime beaucoup aborder, hein, l'éducation et les logiciels, parce que malheureusement, dans l'éducation, il y a beaucoup de logiciels privateurs, notamment de Microsoft, mais pas que, hein, c'est pas limité. Et là, bah, il parle de toutes les problématiques de vidéoconférence. Plein d'étudiants qui doivent suivre les cours depuis leur lit, c'est original, mais bah, ils le font avec du logiciel privateur, notamment Zoom.
Voilà, on sait que l'éducation en général, c'est un champ de bataille hein, pour les éditeurs qui essaient de placer leurs solutions parce qu'ils savent qu'ils vont former dès le départ et faire prendre des habitudes aux utilisateurs, donc à leurs futurs clients. Puis il y a également dans la partie réseau social. Nicolas expliquait que par exemple, dans son école d'ingénieur, tu devais créer un compte LinkedIn, donc qui est un réseau social pro, mais qui fait des profils fantômes, espionne tout autant que les autres. Par contre, ben, pour avoir son diplôme, il faut les logiciels privateurs, éventuellement, dans nombreux cas, également mettre ses données personnelles dans des réseaux.
Le Monde.fr, concurrence. Ni Apple ni Google n'avaient besoin de ces comportements prédateurs. Une tribune de Charles Cuvelliez et Jean-Jacques Kiscater, qui sont deux universitaires, si j'ai bien compris.
Voilà, donc ça parle de la procédure en cours aux États-Unis d'antitrust. Donc
oui.
Là, on est enchanté de voir que les monopoles sont attaqués par les puissances publiques. Ça, c'est normal, de notre point de vue.
Oui, en tout cas, ça fait longtemps que ça aurait dû arriver.
Mais effectivement, probablement pour se constituer, les comportements prédateurs, c'est ce que disent les deux auteurs, n'étaient pas nécessaires. Qu'ils deviennent des géants, des mastodons d'Internet. Ils le seraient devenus par plein d'autres moyens. Bon, mais ça n'empêche.
Le MagIT, licence open source, les ambiguïtés subsistent. Un article de Gaëtan Raoul.
Alors oui, c'est compliqué quand on fait du logiciel libre et qu'on développe ou qu'on utilise, de savoir exactement ce qu'il retourne en termes de droit d'auteur. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser une brique, une librairie, un autre logiciel qu'on va intégrer dans le nôtre? C'est pas simple. Et donc,
Surtout quand les licences sont différentes. Et, voilà.
C'est ça, et que parfois, il y a des petites clauses plus ou moins cachées ou pas faciles d'accès. Et quand il y a beaucoup, beaucoup de logiciels qui sont en jeu, alors sur une distribution, par exemple, ben, c'est difficile de savoir exactement quels sont les régimes de chaque logiciel, les régimes de propriété intellectuelle. On n'aime pas ce mot-là, mais c'est souvent ce qui en a abouti derrière tout ça. Donc là, il y a des entreprises qui vous proposent des services pour essayer de tracer un petit peu... C'est problématique, c'est pas simple, hein, et même eux ont du mal, beaucoup de mal.
The Conversation, débat, peut-on faire de la science ouverte sur Zoom? Un article d'Alexandre Roquet.
Eh oui, hein, peut-on hein, je te le demande, peut-on faire de la science ouverte
manifestement,
quand
plein
on est
de
enfermé
gens en font, voilà. Hein manifestement, oui, puisque plein de gens en font, donc sauf à dire que ce ne sont pas des scientifiques. Voilà, le fait, c'est comme ça que ça marche. Donc Zoom, on le rappelle, hein, c'est un outil de visioconférence, qui est un système qui marche bien, mais qui est sévèrement propriétaire, qui s'est fait épingler il y a quelques mois pour faire un peu n'importe quoi avec les données des gens et les espionner.
Soi-disant, est-ce que tu as des preuves? Ça va être compliqué.
Non, je ne sais pas. Donc du coup, ça pose la question de si on veut effectivement faire de la science, être autonome, est-ce qu'il ne faut pas que nos outils soient autonomes également?
Alors malheureusement, la réponse a déjà été proposée par plein de gens. Ils utilisent Zoom, hein, et puis tant pis... C'est un outil.
Voilà. Donc, alors on va parler de science ouverte hein, comme sujet de la semaine, donc on reviendra là-dessus. Le Journal de Montréal, l'accès universel à la science, plus que jamais nécessaire face à la Covid-19, un article de la rédaction.
Ah, le féminin de Covid-19, ça me fait toujours bizarre. Hein.
Moi, pareil, oui.
Mais c'est intéressant parce qu'il y a un appel qui vient d'être fait notamment par l'UNESCO et d'institutions internationales qui demandent à ce que la science soit ouverte. On est touchés, ça nous fait plaisir de voir cela, on
va
répondre.
Et c'est pour ça
hein.
qu'on en parlera tout à l'heure.
Voilà.
Le droit... L'homme qui redonne des ordis, un article de Mylène Moisan.
Donc ça parle de Miguel Ross, quelqu'un qui a des soucis de vue, mais qui arrive malgré tout à réparer des ordinateurs et les redonner aux gens, bah, notamment avec du logiciel libre. Bah, on l'encourage.
Voilà,
ça fait
il y a plein d'associations à droite à gauche, un peu partout, qui sont souvent associations locales, qui font ça, qui font du reconditionnement et évidemment se tournent vers du logiciel libre qui est moins gourmand et qui permet de faire tourner des vieilles machines sans payer de licence. ZDNet France, la Commission européenne et les logiciels libres, ambition molle pour l'April. Un article de Thierry Noisette.
Ils sont durs sur l'ambition molle, je trouve. Mais bah, oui, effectivement, on en a parlé. Hein, donc, l'Europe s'intéresse aux logiciels libres et met en avant des ambitions de faire de l'open source en interne et dans toutes les administrations. Donc c'est quelque chose c'est conséquent. Mais bah, du point de vue de l'April, ça ne va pas assez loin.
Peut mieux faire, comme on dit, c'est ça?
C'est ça, bien vu.
ZDNet France, les emplois Linux et open source, plus tendance que jamais. Un article de Stephen J. Vaughan Nichols.
Ça parle d'entreprise, du fait qu'en entreprise, c'est plus facile de trouver du boulot quand on fait du logiciel libre. Donc, bah, c'est super, c'est génial. On est vraiment dans une période intéressante.
Très bien. Donc, science ouverte. Donc, on ne va pas parler directement de logiciel, même si je pense qu'on va y revenir au grand galop, puisque un des articles, finalement, évoquait cette question des logiciels. Alors déjà, il y a une proximité très forte entre le logiciel libre et la science.
Bah oui, on pourrait même considérer que le logiciel libre est une forme de fonctionnement scientifique. Parce qu'on échange, on améliore et on critique les quatre libertés. Tu te rappelles les quatre libertés du logiciel libre, hein ?
Donc la liberté d'exécuter le code pour ce qu'on veut, la liberté de l'étudier pour voir comment ça fait dedans, la liberté de le modifier, la liberté de le redistribuer.
Ben, en fait, c'est ce que font les scientifiques. Les scientifiques, largement, quand ils vont utiliser des connaissances, ben, ils vont les utiliser, hein, ils vont les étudier, ils vont les modifier et ils vont ben, les repartager. Donc
oui,
ça,
oui.
C'est
puis,
des mécanismes qu'on connaît depuis des siècles.
Il faut bien se souvenir que le logiciel libre qui a été formalisé par Stallman, qui était un universitaire, à une époque, donc début des années 80, avec eux, leur expérience d'informatique était une expérience d'universitaire. Donc les principes même du logiciel libre sont clairement recopiés depuis les principes de partage de la science, puisque ça a été mis en place par des gens qui étaient des scientifiques, qui étaient des universitaires. Donc ils ont remis dans l'informatique ce qu'ils pratiquaient déjà en termes de recherche.
Alors malheureusement, ou en tout cas, c'est comme ça que ça se passe, la science n'a pas eu besoin d'être concrétisée de la même manière que l'a fait Richard Stallman avec les logiciels, parce qu'on considère depuis déjà des siècles qu'il faut partager ces connaissances et qu'elles n'appartiennent que à l'humanité, elles n'appartiennent pas à une personne en particulier. E égale MC2, on ne peut pas mettre un droit d'auteur dessus, on ne peut pas mettre un brevet dessus, il n'y a pas de marque qui s'applique.
Toi, tu es contre l'argent, tu es contre la réussite. Et de fait, que ce soit dans la science ou dans l'informatique, on a vu des mouvements depuis quelques décennies d'appropriation, de fait de mettre de la propriété. Donc dans le domaine scientifique, puisque c'est celui qui nous intéresse, il y a tout le jeu de la publication, où les gros journaux scientifiques qui font référence et dans lesquels il faut publier si on veut avoir l'air sérieux, sont des entreprises privées qui font payer à peu près tout le monde, c'est la personne qui veut publier, les personnes qui achètent, les personnes qui relisent ne payent pas mais travaillent gratos, et sont là pour faire vraiment du profit.
Et c'est le cas, parce que ça coûte très très cher tout ça.
Du coup, il y a des mouvements de scientifiques qui ont dit on veut sortir de ce truc-là, mais il y a clairement eu depuis des décennies des mouvements de dévoiement de ce principe scientifique de publier et de faire valider son travail par ses pairs qui doivent être capables de comprendre, de reproduire les résultats, et tout ça a pris du plomb dans l'aile, hein. Et dans l'informatique, même chose avec le logiciel propriétaire.
Alors tout ça, c'est des formes de mécanismes tordus. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'approprie d'une certaine manière l'accès à la science. C'était pas la science qui était appropriée elle-même, c'était l'accès. Mais au final, on peut considérer que c'est largement la même chose.
Oui, et puis il y a la question des outils également, qui renvoie à l'article de tout à l'heure. C'est que si on fait de la science avec des outils propriétaires fermés, avec notamment potentiellement des algorithmes qu'on maîtrise pas, on sait pas ce que fait le logiciel, et puis pour récupérer les résultats, il faut avoir le produit lui-même. C'est-à-dire que si on veut retravailler des données, par exemple, si c'est dans un format propriétaire, le laboratoire qui veut répéter les résultats, refaire l'expérience, sera obligé d'avoir le même logiciel ou le même système.
Et ça s'applique aussi aux données. Les données qui sont utilisées par les scientifiques ont besoin, on s'en rend compte de plus en plus, quand on veut reproduire les résultats, ont besoin d'être publiées, ont besoin d'être rendues publiques. Très tôt dans le processus, il y a eu pas mal de cas de dévoiement, encore une fois, où on ne peut pas reproduire quelque chose, puis finalement, en grattant un peu, on se rend compte que c'était basé sur du vent.
Oui, tout à fait. Et en plus ça, même si derrière il n'y a pas d'erreur ou d'escroquerie, un format propriétaire n'est pas nécessairement pérenne dans le temps puisqu'il n'est pas ouvert. Et si l'éditeur n'a pas intérêt à le garder, peut-être que dans 30 ans ou 40 ans, le temps de la science parfois est très long, on n'arrivera pas justement à récupérer ces données-là parce que le format sera obsolète. Dans un format libre et ouvert, on a toutes ces spécifications, on pourra toujours trouver un moyen de relire ces données.
Et moi, alors là, je trouve qu'il y a un pivot qui est intéressant avec le logiciel libre, c'est que Richard Stallman, il a utilisé le droit d'auteur, donc quelque chose qui nous embête fondamentalement, parce qu'on voudrait que les logiciels libres appartiennent à l'humanité, enfin en tout cas moi je voudrais qu'ils appartiennent à l'humanité, et pas à des auteurs, mais Richard Stallman, il a utilisé le droit d'auteur tel qu'il existait pour dire, voilà, les logiciels libres qui seront distribués sous la clause du copyleft, donc par opposition au copyright, vous ne pourrez plus les renfermer et les enclore, comme on peut le faire avec des logiciels privateurs.
Mais dans la science, comme dans l'informatique, l'auteur est important, non pas par rapport au fait qu'il contrôle l'information et qu'il en fasse du profit en possédant l'information, mais sur sa notoriété. Et dans l'économie du savoir, donc pas l'économie avec des sous, mais comment les échanges se font, que ce soit dans le logiciel libre ou dans la science, le principe essentiel, c'est cette question de la notoriété.
Alors, notoriété, je ne sais pas, il y avait d'autres termes, je crois que c'est... Paternité, maternité.
Oui, on peut parler de paternité ou de maternité, mais il y a quand même cette idée de dire, bah, ce super boulot, il a été fait par un tel, et donc, même s'il ne conserve pas de droit exclusif dessus, en disant, ça, moi, personne n'y touche, ou alors, faut cracher le pognon, au moins, on a ce truc où on sait que c'est Manu qui l'a fait, et ce super boulot, c'est lui. Donc, ta réputation, le mot notoriété devient, avec les réseaux sociaux et tout ça, un peu péjoratif, mais moi, je le prends pas du tout comme ça. Mais c'est ça qui est important. Et du coup, quand on a quelqu'un qui est reconnu pour brillant et avoir fait du boulot et avoir contribué, eh bien, quand il dit quelque chose, on l'écoute.
Sur le contrôle de l'exploitation, le droit d'auteur, le brevet, le droit des marques, ce sont des verrous qui sont posés. Et là, en mettant le copyleft, ce verrou a été utilisé pour garantir que les logiciels libres continueront à être libres. Et malheureusement, dans la science, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui enferment la science, bah, alors, par l'accès aux publications, mais il y a d'autres mécanismes. Les droits sur les médicaments peuvent être contrôlés parce qu'on n'a pas le droit d'accéder au marché, par exemple.
Ça correspond à tout ce mouvement qui est apparu fin des années 70, dans les années 80, néolibéral, d'appropriation, de mettre des titres de propriété surtout, et qui fait la situation qu'on connaît aujourd'hui, avec de la propriété intellectuelle appliquée à de plus en plus de choses, des inégalités, des boîtes qui sont extrêmement rentables, des gens qui s'enrichissent beaucoup et d'autres qui, par contre, sont dans la misère. Bon, il y avait un autre article là-dessus et qui montre en quoi, aujourd'hui, c'est absolument vital. On change de paradigme et qu'on revienne sur le paradigme d'avant en mieux, hein, parce qu'il faut être ambitieux. Bah, c'est qu'on a toute une série de défis qui nous attendent. On a une crise économique assez sévère qui va arriver. On a des problèmes environnementaux très, très, très sérieux qui vont arriver dans très peu de temps.
On a une pandémie et probablement d'autres qui vont arriver parce qu'on peut s'attendre à ce que d'autres choses qui déboulent à la suite de ce qu'on connaît en ce moment.
Et donc, on a besoin de souplesse, on a besoin d'être rapide, on a besoin d'être intelligent. Et donc, pour ça, on a besoin de partager nos savoirs, nos connaissances. Et ça va bien au-delà du domaine scientifique. Et si on veut réussir à s'organiser les uns avec les autres, ce que fait le logiciel libre.
Là, je vais te traiter de grand naïf, parce qu'il y a des sociétés qui n'attendent qu'une chose, c'est de trouver le médicament pour la Covid-19. Et là, s'il y a un médicament qui sort qui est efficace, ou même pas d'ailleurs, ce sera peut-être même pas nécessaire qu'il le soit, mais il y a de l'argent énorme à se faire. Et si quelqu'un ou même un pays contrôle ce médicament, c'est une garantie d'obtenir plein de choses.
Comme j'ai la réputation d'être pessimiste, je te rassure, l'épidémie actuelle est un souci, mais c'est un souci extrêmement mineur par rapport à ce qui nous attend à l'horizon de 30 ans, en termes environnementaux. Et cette boîte qui va faire des super bénéfices, les actionnaires seront très très contents parce qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, mais à un horizon assez rapide. Ce modèle-là est insuffisant pour faire face à la montagne qui nous attend.
Donc, moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il faut qu'on travaille tous ensemble, qu'on améliore l'état des connaissances humaines, nos techniques, nos technologies, et qu'on les partage à égalité.
D'accord. Du coup, tu m'aides à faire le montage de l'émission ?
Oui, tout à fait. Non, mais chérie.
Très bien, bon, on se retrouve la semaine prochaine. Manu ?